Sport, mais tout d'abord cette information à Toulouse. Plusieurs personnes ont été blessées ce lundi après-midi. Vers 17h30, des coups de feu ont été entendus dans le quartier Papus situé au sud de Toulouse. Pour l'instant, la police confirme la fusillade en parlant de plusieurs personnes blessées. Il y a un mort et un blessé grave selon le premier bilan, deux personnes âgées d'une quarantaine d'années.
Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. Sportez-vous bien. L'actualité sportive commentée par Jean Sureda.
Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue dans Sportez-vous bien sur Radio Présence. Comme tous les lundis, maintenant vous avez l'habitude, les chroniqueurs et moi-même vous donnerons les dernières infos sportives de la région tout en balayant l'actualité de la semaine avec des invités qui font le sport de haut niveau. Au programme aujourd'hui, les coups de cœur et les coups de gueule de nos chroniqueurs. Lucas Sertic vous donnera les résultats sportifs du week-end. Maxime Brossard, l'agenda de la semaine. Sans oublier les débats ce soir avec le cyclisme et le football. Enfin, nous n'aurons pas d'invité ce soir, mais on va tester nos chroniqueur avec nous aujourd'hui, Lucas Sertic. Bonjour Lucas.
Bonjour Jean.
Marek Keta, bonjour Marek.
Bonjour, bonjour à tous.
Et Timothée Rouvière, bonjour Timothée.
Bonjour Jean, bonjour à tous.
Et Maxime Brossard, bonjour Maxime.
Salut tout le monde.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
C'est quoi cette voix, Lucas ?
C'est une voix de quelqu'un dont le nom a encore été une énième fois écorché, enfin.
Ah. Lucas Sertic ?
Oui, j'ai entendu un petit T, moi. Ça. Non ? Je suis le seul ou pas ?
Est-ce qu'il y a eu un T ? Moi, je suis pas d'accord.
C'est
ok. On demande à la réalisation de nous. S'il vous plaît.
On a l'impression que vous êtes malade, Lucas.
Non, pas tant. Mais
c'est vrai que vous avez l'air un peu enroué.
Un petit peu enroué ? Ouais, bon, peut-être.
Vous étiez où ce week-end ?
J'étais pas loin de Bordeaux.
Hein, ah ouais, cherchez pas alors, on a trouvé l'explication.
On a compris, franchement, on a
bien
compris.
Bien fait pour lui.
Exactement. Messieurs, vous avez passé un bon week-end ?
Oui, très bon week-end.
Super week-end de sport avec la Formule 1, le football, le rugby. Le football hier s'est bien terminé en France avec le PSG Lyon. Oui, on a eu un bon week-end de sport.
Et le début des Jeux Olympiques de la jeunesse à Buenos Aires.
Hein. C'est vrai.
Oui. Exactement. Messieurs, j'espère.
En Ligue 1, on a eu pas beaucoup de buts finalement, mais Des très beaux buts, moi j'ai trouvé.
On a eu des. Oui, c'est vrai. En termes de quantité, c'était pas trop ça. En termes de qualité, notamment celui de Bordeaux.
Celui d'Amiens. Enfin, bref, il y en a eu plein des jolis.
Exactement. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle émission. Messieurs, on démarre maintenant avec les coups de cœur et les coups de gueule.
Sportez-vous bien. Les coups de cœur et les coups de gueule.
Et chaque semaine, vous nous parlerez, vous avez l'habitude maintenant, messieurs, d'un événement qui vous a fait plaisir ou non. Et cette semaine, c'est mitigé, deux coups de cœur, deux coups de gueule. On va commencer avec un coup de gueule. Marek Keta, on va parler de MMA, de sport de combat.
Le MMA, donc le Mixed Martial Arts, on en avait parlé il y a quelques semaines avec Maxime. Et ce week-end se tenait un des événements sportifs les plus teasés finalement de ces dernières semaines, le combat entre McGregor et Khabib Nurmagomedov. McGregor qui est une grosse tête d'affiche du sport de combat UFC, qui fait le show en général, mais ce match en fait s'est terminé tristement, j'ai envie de dire. Bon, une victoire écrasante de Khabib Nurmagomedov. Il n'y avait pas photo sur les 4 rounds. On va dire que McGregor s'est fait marcher dessus. Et le combat qui s'est terminé donc avec un mouvement de foule provoqué par le clan du Russe. L'octogone, le terrain, donc le ring sur lequel se déroule le combat a été envahi par les deux groupes, par les deux clans de l'Irlandais et du Russe. Et c'était un peu digne, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'a un peu fait penser finalement à la WWE, ce combat de catch.
Scénarisé.
Voilà. Donc je trouve ça dommage pour un sport finalement qui peine un peu à se faire une place parmi les autres sports de combat, dans le sens en France par exemple, c'est un sport qui n'est pas reconnu. Beaucoup de combattants MMA français ne peuvent pas exercer ce sport dans une ligue. Et c'est bien dommage, en tout cas pour nous. Quoi qu'il en soit, c'était un piètre spectacle, j'ai trouvé, puisque
c'est pas une bonne image pour le sport.
C'est pas une bonne image pour le sport et pour ce sport en particulier, puisque les valeurs finalement du sport qu'on défend, le respect de l'adversaire, elles ont été bafouées ce week-end.
Maxime Brossard.
Oui, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec Marek. Quoi. Là, sur le coup, c'était annoncé comme le combat du siècle et la fête a été totalement gâchée. Pas au niveau sportif, puisque j'ai regardé la sous-carte aussi, c'est-à-dire les combats qu'il y avait avant. J'ai vu un Tony Ferguson contre Antonio Pettis, qui était un magnifique combat, c'était incroyable. Ça s'est joué au point, c'était superbe. Et ensuite, après, même la défaite de Conor McGregor, il n'y a rien à dire sur la victoire du Russe, sur la victoire de Khabib, mais ça, après, ouais, c'est parti complètement en live. Et c'est dommage parce que le MMA, voilà, ça va continuer d'avoir cette image de sport de voyou, alors que ça n'a rien à voir. Et d'ailleurs, j'invite les auditeurs, ce dimanche, il y a un super documentaire qui va passer sur Canal+, essayez peut-être de le voir en replay, sinon c'est justement consacré aux combattants de MMA français qui tentent de faire connaître leur sport et qui persévèrent avec ce genre d'événement. Ben, ça met un peu un caillou dans la chaussure.
Ça va pas aider. On parlait tout à l'heure, Lucas Erdic, du catch, de la façon, du côté théâtral. Finalement, est-ce que c'est pas voulu cette bagarre?
C'est exactement la question que j'avais envie de poser à Maxime et Marek, parce que moi je m'y connais moins, mais effectivement on peut se poser la question, est-ce que ça n'a pas été un petit peu préparé?
Alors à mon avis, ouais, il y a une petite partie de ce qui est scénarisé. Déjà on peut se poser des questions, puisqu'en fait avant le combat, avant cette UFC 229, il y a eu des problèmes de justice pour Conor McGregor, puisqu'en fait il était rentré lors d'une conférence de presse de l'UFC alors que tous les combattants qui devaient combattre donc pour un événement UFC étaient dans un bus. Lui était rentré dans les coulisses, en fait. C'était muni d'un diable, si vous voulez, d'un chariot, et l'avait jeté dans la vitre. Et derrière, il a eu des problèmes de justice et ça a fait qu'envenimer le combat et fait monter la pression. Je sais pas, peut-être, j'ai aucune idée, mais en tout cas, c'est dommageable pour le MMA.
Ça donne une mauvaise image. Encore un coup de gueule, c'est pour Lucas Erdic. On va parler football, on va parler du FC Nantes Atlantique, plus particulièrement de son président, c'est bien ça ?
Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que la gestion du club de Nantes, de Valdemarquita, est franchement...
catastrophique.
Presque catastrophique. Ou en tout cas vraiment très, très critiquable au niveau de la gestion des entraîneurs. Personne n'arrive visiblement à bien terminer une relation professionnelle avec lui. Et on en a encore un bel exemple là avec ce qu'on redoutait finalement et qui est tristement arrivé, c'est-à-dire le limogeage de Miguel Cardozo et l'arrivée de Vahid Halilhodžić. Au-delà de la gestion, en plus au niveau sportif, c'est vraiment questionnable, parce qu'on avait un entraîneur portugais ambitieux, jeune, qui faisait partie d'une nouvelle vague vraiment intéressante, qui a été largué alors qu'il était soutenu par ses joueurs, que Nantes n'était pas dans une situation non plus catastrophique encore.
On le rappelle, ils sont 19e, mais en termes de points, ils sont loin d'être décrochés, surtout qu'on n'est que début octobre. Donc
puis ça se trouve, ils auraient gagné à Bordeaux et ils seraient mieux classés aujourd'hui si Miguel Cardozo était resté. A contrario, Vahid Halilhodžić, qui est quand même un coach qui a fait son temps, qui a été intéressant pendant une période, mais qui n'était plus dans le championnat de France depuis 13 ans, qui n'a pas non plus fait grand-chose depuis qu'il était parti du Paris Saint-Germain.
Il a été sélectionneur de l'Algérie en 2014 et de la Chine également.
Il a dit si ça n'avait pas été pour Nantes, il n'aurait pas accepté ce poste. Voilà, il est attaché à ce club, on comprend, mais quand même, je comprends pas. Mauvaise image pour le club. Ils avaient réussi à trouver en plus des bons entraîneurs à chaque fois. Sergio Conceição, c'était un bon coup. Claudio Ranieri aussi. Il va commencer à faire fuir tout le monde. Qui va bien vouloir prendre la barque FCNA au bout d'un moment, je ne sais pas.
Timothée Rouvière, est-ce finalement Kita, le président, le problème au FC Nantes? Est-ce qu'on peut se poser la question?
On peut se poser la question, mais ce qui est vraiment dommage pour Nantes, qui est quand même un grand club français, qui a gagné de multiples fois le championnat de France, c'est que Nantes est une place forte du football français, et on se rend compte qu'en termes de gouvernance, c'est compliqué. Il y a des super joueurs là-bas, comme Emiliano Sala ou Valentin Rongier, et le fait de voir le FC Nantes dans cette situation, ça doit attrister un petit peu tout le football français.
Ouais, non, mais c'est sûr que c'est triste. Ça donne une mauvaise image aussi, quelque part, de notre championnat, parce qu'on a un coach qui s'est fait virer très rapidement, sans raison. Pour moi, c'est un manque de professionnalisme, presque. Et puis bon, le résultat de ce week-end prouve en plus que, bon, on verra sur le long terme, mais que la décision n'était peut-être pas si bonne.
On a parlé de sport de combat, on vient de parler d'un sport collectif. On va mixer le tout, on va mettre le ballon un peu plus ovale et on va parler du rugby avec vous, Maxime Brossard.
Oui, des fois le ballon c'est un prétexte au rugby. Alors, je vais vous donner mon coup de cœur, je vais parler de la Coupe d'Europe, bien sûr le retour de la Coupe d'Europe ce week-end, la Champions Cup, l'Age Cup pour les pays qui ont la chance de pouvoir parler des marques de bière. Au-delà du fait de la compétition en fait qui je trouve a vraiment pris de l'ampleur au fil des années, c'est une compétition qui s'est vraiment installée dans le paysage du rugby. Je trouve que ce qui va être intéressant à suivre pour moi cette année, c'est la confrontation entre Top 14 et Premiership que j'attends, donc la confrontation entre les équipes du championnat français et les équipes du championnat anglais. Tout simplement, en fait, parce que...
On les vend comme les deux plus gros championnats du monde.
Voilà, on les vend comme les deux plus gros championnats du monde. Enfin, du moins, c'était le top 14 qui avait le titre honorifique de meilleur championnat du monde. Mais les Anglais sont en train de rattraper leur retard. On a vu notamment avec l'arrivée de beaucoup de joueurs de qualité. Je pense, comme ça, au hasard, à Limas Opoaga, qui est le 10 des All Blacks, qui était juste derrière Boden Barrett, qui a signé aux Wasps. Et donc, voilà, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais voilà, en fait, c'est deux championnats qui sont considérés comme les meilleurs du monde. Et je pense que ça va vraiment être intéressant de suivre les doubles confrontations. Donc là, je parle pour ce week-end, notamment le premier match du Stade Toulousain qui va se rendre à Basse. On va avoir le champion Castres qui va aller défier Gloucester. Voilà, et puis après, dans les autres poules, bon, il y aura un Toulon-Newcastle, ça c'est un peu anecdotique, mais je voudrais voir surtout par rapport à la deuxième journée qui sera donc le 20 octobre, il y aura un Saracens-Lyon qui va être aussi intéressant à suivre.
Et le Leicester, champion d'Europe en titre, qui va venir ici.
Qui le Leinster qui va venir ici, oui, défendre son titre. Voilà aussi.
Gros match à
suivre. Gros match à suivre, mais le fait que on va dire le Pro 14 soit supérieur, ça, c'est une autre histoire. C'est plus. En lien avec le calendrier, je pense qu'avec la qualité vraiment intrinsèque du recrutement.
Lucas Cervic. Ouais, je trouve que ça va être intéressant, mais je suis plutôt inquiet moi pour nos clubs français. On parlait tout à l'heure en antenne de la tendance qui s'inverse effectivement sur cette dernière saison de Coupe d'Europe. Et là, pour le coup, là sur le papier, je vois pas de. D'habitude, il y a toujours un club français ou deux où je me dis ouais, quand même, eux ils risquent d'aller loin, voire de gagner. Là, je sais pas. Pour différentes raisons, je sens aucun gros club français.
Même le Racing 92,
même le Racing 92. Bah, regardez où ils sont au classement.
Clairement, on n'est même pas qualifié pour la Coupe d'Europe. Donc,
et oui, donc là, qui marche bien aujourd'hui, le Stade français, peut-être, mais ils y sont ou pas?
Non, ils ne sont pas.
Donc, je ne sais pas, je la sens pas, moi, cette saison.
Vous avez
pour club.
Toulouse, Castres, Lyon, le Racing, Montpellier et Toulon. Le club français qualifié.
Castres, ça fera un peu trop pour eux. Le Stade, je ne les sens pas. Montpellier, je ne les trouve pas au top non plus. Il y a vraiment, je ne sais pas, il y a du pessimisme chez moi cette année.
Et on va terminer avec un coup de cœur pour vous, Timothée Rouvière. On va retourner dans le football, dans le ballon rond, avec, on parlait en tout début d'émission de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain sur le match d'hier soir. Il y en a un qui a encore brillé, c'est Kylian Mbappé.
Ben oui, je pense qu'on pourrait le mettre en coup de cœur à chaque émission parce que Kylian Mbappé encore...
Quand il n'est pas suspendu.
Quand il n'est pas suspendu, c'est important de le préciser. Mais 4 buts encore en 13 minutes contre Lyon. C'est un garçon qui a 19 ans et 9 mois. Il excelle dans tout ce qu'il fait. Il avait loupé un nombre incalculable d'occasions. On se disait, il fait pas un gros match, etc. Mais il plante 4 buts comme ça. Même Neymar, la superstar mondiale, qui est Neymar, est relégué au second rang.
Était à son service.
Donc il lui délivre une passe décisive, je le rappelle. Et c'est un garçon plein de maturité, plein de talent. On sait pas où il va s'arrêter. Et on est bien content qu'il soit français.
Marek, il marque 4 buts. Et en plus, il loupe 3 face à face qu'un très très grand attaquant, sans lui manquer de respect parce qu'il est encore jeune, mais un mec qui a de l'expérience, c'est au fond. Donc il peut terminer le match avec 7 buts au compteur, c'est gigantesque.
Et comme vous dites, il est passé à deux doigts vraiment de battre le record de Robert Lewandowski, qui pour l'instant, je pense,
il va être dur à battre.
Donc c'était 5 buts en 9 minutes
contre Wolfsburg.
Venait de rentrer en jeu contre Wolfsburg. En 9 minutes, il a claqué 5 buts. Bon. Après, Mbappé, comme on ne fait que le répéter, il n'a que 19 ans, donc c'est tout à son honneur.
20 ans en décembre.
Voilà, il a encore beaucoup de chemin. Et voilà.
C'est un extraterrestre.
Oui, c'est un extraterrestre. Et puis on parle de ses occasions ratées, mais en fait, il faut plutôt souligner le fait qu'il
se les crée.
Déjà, ses occasions, et c'est ce qu'il dit très bien à la fin du match, justement. L'important pour lui, c'est de se créer des occasions. Après, même s'il en loupe quelques-unes, il sait que tant qu'il s'en crée, il arrivera à marquer des buts. Et c'est ça qui est le plus impressionnant. Avec sa vitesse, quand tu joues face à une équipe qui joue haut, qui presse haut, qui tente des choses, parce que c'est tout le mérite de Lyon d'avoir essayé jusqu'au bout. S'ils s'en prennent 5, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu perdre 1-0.
Et surtout que sur un bon jour, Lyon gagne le match.
Ils auraient pu le gagner. Non, mais après, on ne sait pas. Ça se trouve, à l'heure de jeu, ils auraient craqué pareil, même s'ils avaient mené 2-1. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont voulu. Ils sont allés le chercher. Et quand tu fais ça, que tu es un peu cramé derrière, surtout quand tu as Jérémy Morel qui est plus tout jeune. Bon, Mbappé, cette occasion, ça ne m'étonne pas. Quoi. Mais avec sa vitesse, c'est obligé qu'il s'en crée autant avec autant de volonté. Et il me fait penser dans sa détermination à Cristiano Ronaldo sur ce point-là. Il va aller loin. On le sait depuis longtemps. Ça se confirme encore plus.
Et il est déjà champion du monde, Timothée Rouvière.
On peut même donner une statistique. Souvent, on compare Kylian Mbappé et Neymar. Kylian Mbappé, 5 matchs, 8 buts. Neymar, 8 matchs, 8 buts. Donc, je pense qu'il est au-dessus de Neymar, mais il ne faut pas non plus qu'il se brûle.
C'est pas le même profil,
mais en termes de statistiques et de buts,
La seule différence, c'est qu'on peut se dire que les 8 buts Neymar les aurait peut-être marqués sur Mbappé, et l'inverse n'est pas vrai, mais bon,
ils sont là, ils sont dans la même équipe, ils sont là tous les deux, et Paris marche très fort en ce moment.
Merci messieurs, on se retrouve nous dans moins de 4 minutes avec les conseils Santa avec Didier Rubio, à tout de suite. Florent Pagny sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
Et cette semaine, Didier Rubio, nous allons parler des fruits et légumes dans le sport. On nous dit, avant de faire du sport, de manger des pâtes et de laisser à côté les fruits et légumes. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est?
C'était pas faux de dire qu'il faut consommer des pâtes, mais non, je pense que c'est pas la priorité en fait dans le sport. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir une alimentation vraiment variée, diversifiée pour pouvoir donner la pleine puissance en fait à l'organisme de faire du sport, de l'activité physique. Du coup, les fruits et les légumes doivent avoir une place très privilégiée. Ça veut dire une place de tous les jours. Des légumes tous les jours et des fruits tous les jours. Et c'est-à-dire que quand on fait ses courses, il faudrait presque penser à ça en premier. Et lorsqu'on prépare ses repas ou ses menus ou lorsque l'on a envie de manger, il faudrait les mettre au centre des préoccupations. Sachant qu'on a un système de restauration qui n'est pas fondé comme ça et on a toujours mis comme pilier plutôt la protéine.
La viande. Protéine, on en parlait la semaine dernière.
Exactement, on en parlait la semaine dernière et je pense qu'il faut un petit peu révolutionner un petit peu, enfin, son mode de pensée pour pouvoir végétaliser son alimentation. Et donc les fruits et les légumes doivent avoir une place prépondérante, mais avec aussi une condition qui va s'ajouter à ça, c'est le problème des pesticides et le problème voilà, du choix de ces aliments-là. On pourrait encore
en parler
plus longtemps.
Donc on a compris, il ne faut pas bannir les fruits et légumes. Concrètement, qu'est-ce que ça nous apporte, nous, dans le sport ?
Alors en premier, on avait fait une rubrique sur l'hydratation. Et quand on sait que les fruits et légumes sont composés à environ, on va dire, 90% d'eau, quand on consomme des fruits et légumes, en fait, on s'hydrate. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a, c'est une mine, normalement, de minéraux, de vitamines, d'oligo-éléments et surtout des fibres. Ça permet quand même d'avoir une alimentation volumineuse qui va rassasier, en fait, et nourrir l'être humain à sa juste mesure. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger.
On nous dit aussi, dans les pubs, 5 fruits et légumes par jour. C'est vrai ?
Oui, alors ça c'est assez amusant parce qu'en fait quand j'interroge les gens avec qui je suis, je leur dis pour vous 5 fruits et légumes ça veut dire quoi ? Il n'y a personne qui me répond la même chose, il y en a qui vont dire 5 fruits différents, il y en a qui, je leur dis mais si vous mangez une fraise ça compte pour un ? Ah ben oui. Donc en résumé, 5
fruits, la quantité.
Voilà, 5 fruits et légumes par jour veulent dire, ça veut dire 5 portion de 80 grammes, ce qui veut dire qu'en réalité, ça fait 400 grammes par jour.
C'est pas un raisin, quoi.
Non, c'est pas une graine de raisin, vous avez raison. Et de fait, 5 fois 80 grammes, l'idée, c'est de diversifier avec des fruits, des légumes crus, des légumes cuits. Et du coup, on pourrait manger au moins 600 grammes, voire 800 grammes
de fruits et légumes, par jour.
Hein, mais bon, voilà, l'institution a dit 5 fois, c'était 400 grammes, c'est déjà pas mal.
Didier Rubio, merci, on se retrouve la semaine prochaine.
Avec plaisir.
On le rappelle, vous êtes diététicien et nutritionniste du sport, spécialisé en éducation thérapeutique. Vous travaillez également à mi-temps, hôpital des enfants et aussi en activité libérale dans le sport et la santé. Vous avez été formé en qualité de vie au travail et dans le sport. En plus, vous êtes conférencier et micronutritionniste. Vos coordonnées sont à retrouver sur Radio Présence. Et on se retrouve tout de suite pour les résultats sportifs du week-end.
Jean Sureda.
Et les résultats sportifs du week-end, encore une fois, bien évidemment, comme toutes les semaines, un week-end très chargé dans la région, sur le plan national et même sur le plan international. On va en parler tout de suite et on commence avec le football. Le TFC s'accroche aux places européennes, Timothée Rouvière.
Oui, avec un match nul, un but partout face à Nice. Après avoir encaissé l'ouverture du score par Srarfi, les Toulousains ont répliqué grâce à Mathieu Dossévi. Les hommes d'Alain Casanova pointent à la 8e place du classement. De son côté, le GC Nice stagne malgré une belle prestation. Patrick Vieira, l'entraîneur, ne cache pas sa déception.
Ah, et on n'aura pas de son.
On n'aura pas de son.
Technique. On continue.
On continue avec le championnat et le classement. Et Paris qui est toujours en tête de ce championnat. Après sa démonstration, 5 buts à 0 contre Lyon, dont un quadruplé pour Kylian Mbappé. On en a parlé tout à l'heure lors des coups de cœur. Lille est deuxième après sa victoire, 3 buts à 1 contre Saint-Etienne, grâce à un doublé de Jonathan Bamba. Marseille, vainqueur de Caen, 2-0 et 3e. Monaco, Nantes et Guingamp ferment la marche aux 3 dernières places.
Et après 2 défaites, le stade de Toulousain en rugby reprend sa marche en avant.
Une victoire étriquée pour les Rouges et Noirs face aux voisins Agenais, 10-0. Dans une rencontre où les défenses ont pris le pas sur les attaques, c'est le demi de mêlée Sébastien Bézi qui a inscrit le seul essai de ce match. Au classement, les Toulousains sont 6e. Ils sont devancés par le voisin Castré, défait face au Stade Français 14-9. En tête, Clermont domine toujours malgré sa défaite à La Rochelle 16-12. Devant le Stade Français, Lyon et Montpellier. Agen et Perpignan se partagent les 2 dernières places du classement.
Le handball, maintenant une nouvelle défaite pour le Phénix de Philippe Gardin.
Oui, les Toulousains se sont inclinés 26-24 face à Aix-en-Provence. Provence. Une nouvelle défaite, la quatrième de la saison, qui plonge le Phoenix à la 12e place du classement. En tête, c'est Nantes qui domine après sa victoire 32-28 contre Tremblay, devant Chambéry et Paris, vainqueur de Ponto Combo 38-25. Montpellier est seulement 5e malgré sa victoire 25-24 contre Dunkerque. En Ligue des Champions, cela va toujours aussi mal pour le champion d'Europe en titre Montpellier, battu par Barcelone 35-27. Le PSG Handball continue, lui, son sans faute dans la compétition, avec une victoire face à Nantes 35-34.
En Formule 1, le Grand Prix du Japon et Lewis Hamilton se rapprochent de plus en plus d'un nouveau titre de champion du monde.
Une nouvelle victoire pour le Britannique, le pilote Mercedes devant son coéquipier finlandais Valtteri Bottas, offrant un quatrième doublé à la firme Mercedes. Max Verstappen est troisième, beau tir groupé a précisé des Français. Romain Grosjean finit huitième et Esteban Ocon neuvième. Au championnat, Hamilton devance toujours Vettel de 67 points et son coéquipier Valtteri Bottas de 124 points et peut être déjà sacré champion du monde lors du prochain Grand Prix à Austin.
En rallye, le championnat du monde est relancé après le rallye de Grande-Bretagne.
Sans victoire depuis 6 mois, le quadruple champion du monde français, Sébastien Ogier, l'emporte devant le Finlandais Jari-Matti Latvala. Le Belge Thierry Neuville est seulement 5e. Sébastien Ogier et son copilote Julien Ingrassia reviennent à seulement 7 points de Thierry Neuville au classement du championnat du monde et conservent une chance de remporter un nouveau titre.
Victoire surprise sur le Paris Tour.
C'est le Danois Søren Kragh Andersen qui s'impose en solitaire pour la dernière grande classique de la saison et sur un parcours new look. Il devance le Néerlandais Nicky Tepstra et le Français de l'équipe AG2R La Mondiale, Benoît Cosnefroy.
Et un nouveau titre pour le Français Antoine Albault en kitesurf.
Oui, c'est le 25e titre de champion du monde pour le sportif français de 46 ans. Un nouveau titre décroché à Sylt en Allemagne lors de l'épreuve de slalom en windsurf. A noter également le 3e titre de championne du monde décroché par la Française de 26 ans, Delphine Cousin, lors de l'épreuve de slalom.
Merci Timothée Rouvière, on se retrouve là tout de suite pour le premier débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Et on va parler de cyclisme ce soir. On devait en parler, on ne va pas vous mentir, la semaine dernière, mais le temps nous a manqué. On le reporte à ce soir pour notre plus grand plaisir. Messieurs, vous connaissez, vous avez l'habitude, on répond par oui ou par non. Et ensuite, les débats sont ouverts. La France est-elle la nouvelle grande nation du cyclisme? Lucas Cerdic.
Oui, la prochaine grande nation pour moi. Oui, tout à fait.
Maxime Brossard.
Je dirais pas actuellement, mais pourquoi pas dans le futur.
Pourquoi pas, Marie-Quetta?
Oui, comme Maxime.
Comme Maxime et Timothée Rouvière.
Oui, certainement.
Oui, alors pourquoi? Vous êtes tous d'accord. Qu'est-ce qui fait que la France peut être la nouvelle grande nation du cyclisme, Lucas Cerdic?
Qu'est-ce qui fait tout simplement l'ambition déjà de l'être, et elle s'est vue sur les derniers championnats du monde la semaine dernière. C'est pour ça qu'on voulait en parler, parce que on a vu une course où les Français ont tout bien fait, se sont pas cachés, ont voulu dynamiter la course, la prendre en main, ont fait exploser les autres nations sans un grand Valverde qui était vraiment en quête de son ultime objectif, c'est-à-dire ce maillot arc-en-ciel qu'il n'avait jamais décroché. Sans un grand Valverde, on aurait sans doute eu un Français vainqueur, voire même peut-être un podium avec deux Français, si Alaphilippe avait pas craqué, enfin bref, avec des six, voilà. Mais c'est vraiment une question d'ambition. C'est quand on voit que Bardet fait sixième et qu'on est déçu au Tour de France, quand on voit que Pinot est sur le podium du Giro jusqu'à la veille de l'arrivée et qu'il abandonne et qu'on est déçu. C'est tout ça. C'est de se dire qu'on a des sprinteurs qui peuvent gagner des grandes classiques comme Milan-San Remo et des punchers qui peuvent gagner d'autres grandes classiques comme Liège-Bastogne-Liège. Enfin bref, ils sont partout nos Français et il y a une grosse génération.
Justement, est-ce que il y a toujours pas de titre vraiment sur cette année? Il y a des... On est bien placé, on vient de le dire, mais il manque toujours le titre, Timothée Rouvière. C'est ce qui manque.
Alors,
dans le
oui,
sport.
C'est sûr, il manque le titre, et c'est vrai que c'est pour ça que ça fait la différence. Mais comme pour revenir sur ce que disait Lucas, là, on a des Français qui sont bons partout. On a des bons grimpeurs comme Warren Barguil, comme Romain Bardet, comme Thibaut Pinot. On a des bons sprinteurs comme Nasser Bouhanni, Brian Coquart ou Arnaud Démare. On a des punchers avec Julien Alaphilippe qui, pour moi, est un des 5 meilleurs punchers au monde. Mais il nous manque toujours un coureur bon en chrono parce que il faut
contre la montre,
tout à fait, parce que il faut être bon dans cette discipline, un bon rouleur
pour.
On revient sur Lucas Cerdic, je l'ai vu, il n'était pas là, vous étiez
non,
pas d'accord.
Non, non, meilleur puncher, Alaphilippe dans le top 5, pour moi il est déjà dans le top 2.
Valverde est pas mal, Valverde
oui, voilà, il y a Valverde, c'est voilà. Tout. Mais Valverde a 38 ans, donc.
Oui, donc après, c'est fini.
Alaphilippe, il est au-dessus des autres sur tout le reste. Par contre, je te rejoins tout à fait, s'il y a bien un truc sur lequel il faut qu'on travaille, c'est les chronos. Ils n'ont toujours pas compris ça. Ouais. On a cru à un moment donné, il y a deux saisons, quand Thibaut Pinot avait décroché le titre de champion de France de chrono, on s'est dit, tiens, ça y est, un de nos grimpeurs qui se réveille là-dessus, mais il n'a pas confirmé depuis. Mmh. C'est vraiment là-dessus qu'on pêche, et ce qui nous empêche de gagner des grands tours. Par contre, sur les grandes classiques, là, moi, je suis très optimiste.
Justement, on vient de parler des grands tours. Un Français sur le podium du championnat du monde, c'est une première depuis 2005. Un Français n'a plus gagné de grands tours depuis 1995, Laurent Jalabert sur le Tour d'Espagne. Et le Tour de France, on ne l'a plus gagné depuis 1985 avec Bernard Hinault. Est-ce qu'on voit enfin le bout du tunnel, Maxime Brossard?
Le bout du tunnel, je sais pas, mais bon, c'est vrai que la grande faiblesse, c'est ça, c'est vraiment le contre-la-montre. Quand on voit les performances des coureurs britanniques, notamment sur les contre-la-montre, quand on voit quelqu'un comme Froome ou Thomas, ils sont toujours présents sur ce type d'épreuve. Et malgré les difficultés, malgré l'aisance qu'ils ont en montagne, ils n'oublient pas cette partie d'un tour qui est essentielle pour gagner. Donc je pense que c'est vraiment la partie qui manque au cyclisme français pour pouvoir concurrencer la Grande-Bretagne.
Thibaut Roubien.
Moi je pense qu'on voit le bout du tunnel, parce que notamment avec Pierre Latour. Pierre Latour, maillot blanc du dernier Tour de France. Pierre Latour, champion de France en titre du chrono.
Alaphilippe, meilleur grimpeur sur le dernier Tour de France.
Meilleur grimpeur aussi, mais moi je pense que Pierre Latour peut vraiment être la bonne surprise. C'est un bon rouleur, c'est un bon grimpeur, donc il a dû se sacrifier pour Romain Bardet pour travailler sur le dernier Tour de France. Et il est pas non plus mauvais en chrono, il peut faire des top 20. Et je pense que ça peut être vraiment la bonne surprise, parce que des Pinot et des Bardet, ils sont peut-être un petit peu vieux, ou s'y prennent un peu trop tard, ou en tout cas le gabarit ne convient pas pour du chrono.
On a tu évoques Alaphilippe aussi, Jean, sur le fait que il a été meilleur grimpeur. Il est pas que ça, Alaphilippe, il est capable sur une course d'une semaine aussi de vraiment bien figurer. Mmh. Justement, son problème, c'est peut-être qu'il tient un poil pas encore assez, mais un coureur comme Valverde avec exactement le même profil, on les compare tous les deux tout le temps, parce que voilà, Valverde a réussi à gagner un ou deux grands tours dans sa carrière quand même, fait beaucoup de podiums. Finalement, quand il arrive à s'accrocher dans la montagne, voilà, il est bon partout de toute façon, Valverde. Alaphilippe, je pense que s'il gagne un peu en caisse sur trois semaines, il a un tel appétit, ce coureur, qu'on peut l'imaginer, quoi.
On l'a vu sur la dernière édition du Tour, quoi. Moi, il y a des fois, j'en regardais les étapes, je me disais non, il va pas y aller, il était pied au plancher. Il repartait, et en plus la grosse qualité qu'il a, c'est qu'en plus c'est un énorme descendeur, il est très fort en descente, il a même ce côté un peu casse-cou des fois, il est très rock'n'roll comme cycliste, quoi. Et donc ça dénote un peu dans l'image du sport. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a une aura qui peut aller au-delà du cyclisme, et qui peut être très bien pour l'image du cyclisme français. En plus,
le problème avec Alaphilippe, c'est que maintenant il est attendu, maillot à poids du Tour de France, ça va se savoir, et je pense qu'Alaphilippe va avoir ce tempérer et temporiser un petit peu, parce que c'est un peu un garçon comme Peter Sagan qui attaque et qui envoie de la caisse, et là il va être attendu, donc on va voir ce qu'il donne.
Mais il est encore jeune, il a une marge de progression, il le sait, il est intelligent, et il a les jambes de toute façon, ça, et ça personne pourra lui enlever, je veux dire, même si on le surveille, celui qui est le plus fort à la fin, il est le plus fort.
La pédale,
Sur de nombreux classements par nation sur la saison, la France est derrière les Pays-Bas, l'Espagne, la Belgique ou encore l'Italie. Qu'est-ce que nos coureurs, Laurent Envier, quand vous écoutent, hormis la Grande-Bretagne, quand vous écoutent, on est presque derrière la Grande-Bretagne, mais finalement, quand on regarde les résultats, il y a quand même encore 4-5 équipes qui nous devancent. Qu'est-ce qu'on a envié à ces coureurs-là?
La Grande-Bretagne, ils se concentrent, c'est-à-dire vraiment sur les grands tours, on va dire. Principalement, les petites courses, c'est pas quelque chose qui les intéresse forcément. Et la grande force de la Grande-Bretagne, c'est la Team Sky, quoi. C'est vraiment l'armada Sky. Enfin, si t'as une équipe comme ça dans ton pays, ben forcément, derrière, les résultats, ils ne peuvent que suivre, en fait. Donc,
Ouais, et puis tu parlais de plein d'autres pays. Je dirais qu'il faut étudier pays par pays. L'Espagne, ils sont sur une fin de génération. Il y a quand même un fossé derrière. L'Italie, il compte que sur 1, 2, 3 coureurs. Je veux dire, s'il n'y avait pas Viviani, s'il n'y avait pas Nibali déjà, ce serait quand même beaucoup plus compliqué. Les Pays-Bas ont une très grosse génération.
Avec Dumoulin, Terpstra.
Voilà, et puis Kruijswijk, et puis
Groenewegen.
Ils ont les Pays-Bas, c'est très solide. C'est peut-être eux qui vont être les plus gros. Mais là, on parle vraiment pour moi de
l'avenir.
Projection dans 5 ans.
Voilà,
dans 5 ans, je vois vraiment notre génération là, qui s'approche de la trentaine. Le cyclisme, c'est un sport où c'est vers 30 ans qu'on est.
En maturité,
voilà, on est à notre apogée, on va dire. Moi, c'est là que je les sens bien, nos Français. Et à ce moment-là, il y aura une espèce de génération où ils seront tout seuls. J'ai l'impression, en tout cas. C'est ce que j'ai envie de me dire.
Messieurs, merci pour ce débat, pardon, désolé. On se retrouve dans moins de 4 minutes avec les jeux. On va vous tester sur vos connaissances, messieurs.
Tant de plaisirs faciles, d'envies puériles qui nous retiennent vers le bas. Prêt à n'importe quel deal, quand il faut mourir, on se met à tout croire, parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut, s'il y a un après, au moins sauver sa peau, parce qu'on sait jamais. On est capable du pire, d'aimer à culpa, de toutes les mauvaises fois. Qui pourrait encore dire qui est Saint Thomas quand son heure arrivera? Parce qu'on sait jamais.
Parce qu'on sait jamais.
On regarde vers le
C'était Christophe Maé sur Radio Présence.
Sportez-vous bien, Jean Sureda.
Et pas d'invité cette semaine, aujourd'hui même, car nous allons voir si nos chroniqueurs ce soir sont bons, sont vraiment forts. Ça fait un mois que nous avons commencé, que nous avons débuté la saison. Ça fait un mois que vous débattez sur toute l'actualité sportive de la région, du plan national, du plan international. Donc voilà, on va voir, vous répondez chacun votre tour jusqu'à qu'il en reste qu'un seul. Le perdant paye l'apéro ce soir avec modération, bien évidemment. Ouais, on est d'accord là-dessus. Mais si on va commencer avec du tennis, on va faire très simple. Le classement ATP.
Donc
le
classement, on reste quand même sur de l'actu. Hein. On va pas remonter trop loin dans le temps.
Il y en a qui n'étaient pas nés.
On est d'accord. Le classement ATP, pour ceux qui ne connaissent pas le classement ATP, c'est tout simplement le classement des meilleurs joueurs mondiaux de tennis. On va commencer. Je veux tout simplement, messieurs, chacun votre tour, le nom des 15 premiers au classement.
On va rigoler.
Au classement ATP. On commence et on va inclure, bien évidemment, Coraline à la réalisation. Bonsoir,
bonjour
Coraline.
À tous.
Et voici, ça fait un mois qu'elle est avec nous. Enfin, on vous la présente.
Enfin,
on l'avait caché. Timothée Rouvière, on va quand même laisser l'honneur
aux femmes.
À Coraline. Coraline, j'attends le premier sportif.
Ah, le premier ou...
Non, non, un des 15.
Ah,
voilà,
un des 15.
Ah, d'accord.
Je vais dire Nadal.
Raphaël Nadal, bien évidemment, qui est le premier mondial. Ensuite, on va démarrer avec Timothée Rouvier.
Je vais dire Roger Federer. Hein.
Roger Federer, qui est bien évidemment deuxième, lui. Comment on est dans l'ordre? Attention, est-ce qu'on a le troisième, Marek Keta?
Je sais pas si. On fait tomber les classiques, hein, d'abord. Donc, Djokovic.
Eh ben voilà, Djokovic, le troisième. Est-ce qu'on a les trois premiers? Maxime Brossard, est-ce que vous avez le quatrième?
Alors, en fait, vous venez de citer tous les tennismen que je connais. Je sais pas, Del Potro.
Bah, quatrième, ah, Del Potro est quatrième.
Au hasard.
C'est fantastique. Ils sont vraiment spécialistes, vous le voyez. Vous pouvez jouer chez vous et vous pouvez nous dire après si vous avez eu, si vous avez été plus fort que nos chroniqueurs. Lucas Cerdic.
Alexander Zverev.
Zverev qui est cinquième. C'est franchement merveilleux. On a les cinq premiers. Coraline.
Murray, je pense qu'il y a encore.
Murray, il est plus là.
Ah, il est plus. Donc, ah, bien sûr.
Coraline est éliminé pour la partie tennis. Timothée Rouvier.
Je dirais Kei Nishikori.
Kei Nishikori, oui, il est en 12e. Ou c'est juste.
On a eu chaud là.
12e position. Marek Keta.
John Isner.
John Isner en 10e position. Ah, John Isner. Maxime Brossard.
Autrichien, Tim, là, non?
Vous le voyez pas.
Team,
très bonne réponse. Vous voyez pas Maxime Brossard, mais il transpire.
Ah ouais, là, c'est
il n'y arrive pas. Dominique Thiem, il est 7e mondial. Lucas Cerdic.
Kevin Anderson.
Kevin Anderson, il est juste après. 8e mondial, bonne réponse. Donc Coraline est éliminée. Timothée Rouvière.
Le bulgare Grigor Dimitrov.
Dimitrov, il est bien là, il est en 9e position. Attention, il en manque 1, 2, 3, 4, 5. Attention,
ça score Marek Keta.
Marek Keta transpire aussi. Attention, oui, il y a la goutte qui tombe, il n'y arrive
pas. Allez. Je crois que.
Là, il faut en donner un.
Je vais dire une bêtise, mais je pense qu'au moins Gasquet est devant les autres, non?
Oh, Gasquet, il est même pas dans le top 20.
Il est même pas dans le top 20.
Il y a plus de Français là, c'est fini.
Exactement. Je peux vous le donner, le premier Français, c'est Lucas Pouille, il est 18e. Aucun Français dans le top 15.
Aïe.
Maxime Brossard. Maxime Brossard. Il en reste 3, attention.
Cilic,
il est en 6e position.
Ah, il me l'a piqué.
Il est fort, il est fort. Attention, est-ce qu'on va réussir à... Est-ce que Lucas Cerdic, il réfléchit, il n'y arrive pas. Lucas, c'est parti. Il en reste 4. 11e, 13e, 14e, 15e. Je ne vous cache pas qu'il y en a un. Si vous le trouvez, c'est
Fabio Fognini, non?
Alors Fognini, il est 13e.
Oh là, joli. Il est au niveau là.
Là, il y en a. Allez, on va pas se mentir. Il y en a un, on peut le trouver. Alors les deux autres, je vous cache pas que voilà.
J'ai un doute, mais je dirais l'Américain Sam Querrey.
Sam Querrey, non, il n'y est pas. Élimination de Timothée. Il reste deux.
Je vais tenter un coup.
Maxime Brossard, si vous trouvez pas, c'est Lucas Cerdic qui s'impose.
Kyrgios, là, non?
Kyrgios, non. Ah. Non, Kyrgios n'est pas là. Donc, le victoire premier point pour Lucas Cerdic.
Est-ce qu'il n'y avait pas Raonic aussi?
Raonic n'y était pas. Alors, il y a le 11e, David Goffin.
Le belge.
Et
le
14e. Ferrer aussi, non?
Ferrer, non, n'y est pas non plus.
Ça fait longtemps aussi. Moi, j'ai quelques années de retard.
Le 14e, c'est Kyle Edmund.
Ah oui, le britannique.
Et alors, le 15e, je vais, par simple gentillesse, on va laisser le vainqueur le dire. Le 15e, c'est un grec.
Ah, Tsitsipas.
Ah oui, Tsitsipas, le jeune 18 ans. Il est déjà 15e.
Il
vient de sortir Gaël Monfils au Master de Shanghai au premier tour.
Donc, le premier point pour Lucas Cerdic. On va continuer. Allez, on va parler un peu de. On vient d'en parler justement du cyclisme, le Tour de France. Oula. Messieurs, je veux tout simplement. Écoutez bien, les 15 derniers vainqueurs de Tour de France. Attention, je compte pas Alberto Contador, c'est-à-dire qu'il y a un trou entre 1999 et 2006, on est d'accord, et que si une personne l'a gagné plusieurs fois, ça compte comme 1.
Et Lance Armstrong
on est d'accord qu'Alberto Contador, il n'y en a qu'un qui lui a été retiré.
Oui. Et il y a Lance Armstrong qu'on enlève aussi. On va commencer avec Coraline.
Bah, je pense ne pas me tromper avec Froome.
Froome, bien évidemment, il l'a gagné en 2015, 2016 et 2017. Timothée Rouvière.
Le dernier, Geraint Thomas, le Gallois.
Geraint Thomas, le Gallois, et bien évidemment, il l'a gagné. Il est tenant du titre. Marek Keta.
Bah écoutez, ma participation au débat précédent, vous en dites long sur ma connaissance du cyclisme. Alors, je suis désolé, je m'incline.
Déjà?
On en a dit un juste avant.
Il y en a un qu'on en a parlé il y a une fraction de seconde.
J'étais pas attentif.
Élimination donc de Marek.
Ah si, j'en ai un, je pense. Nibali.
Nibali, oui, il l'a gagné en 2014 de Nibali.
Bon, bah, Contador.
Ah, oui, excusez-moi.
Lucas Cerdic, Alberto Contador, bien évidemment, bonne réponse. En 2009 et en 2007. Coraline.
Et j'en ai plus.
Et Coraline,
alors.
Il y en a.
Quand même. Non,
bon. Coraline.
Non, j'en ai plus.
Coraline,
non,
élimination. Marek et Coraline sont éliminés. Timothée Rouvier.
Moi, je dirais celui qui a remplacé Contador en 2010, Andy Schleck, le luxembourgeois.
Andy Schleck, il a gagné, vous venez de le dire, en 2010. Bonne réponse, Maxime Brossard.
Floyd Landis.
Ah non, c'est dommage. Dommage.
Non, Maxime n'est plus là. Attention, ouais, attention, pression pour Lucas Cerdic. Si vous ne trouvez pas Lucas, c'est Timothée qui remporte.
Cadel Evans.
Cadel Evans, ah, Cadel Evans en 2011, bien évidemment. Mm. Timothée Rouet, c'est les deux spécialistes du cyclisme. Ouais. C'est les deux qui ont fait le débat presque tout à l'heure. Timothée Rouvier.
Je ne sais pas si ça a été dit. Bradley Wiggins.
Bradley Wiggins en 2012, c'est une bonne réponse.
Il faudrait Carlos Sastre. Duel, là.
Carlos Sastre en 2008, c'est une bonne réponse.
On est sur les combien? Il en reste combien là?
Vous allez monter. Je pense que vous pouvez monter.
Je dirais Oscar Pereiro.
2006. 2006. Et attention, là on change de siècle.
À Miguel Indurain, 95.
Miguel,
il est encore en bas.
Il est en 91, 92, 93, 94, 95. Ouais. Attention, il en reste
c'est
plus
pas
beaucoup.
Du jeu, j'étais pas né.
Ah, mais ça, ouais.
Avant Armstrong, quand même.
Avant Armstrong.
Il en reste plus beaucoup.
Il en reste combien?
Et il en reste 1, 2, 3, 4, 5.
Il y a un Français, du coup, là, non?
Non plus.
Non. Ouais.
Toujours
non.
Pas.
Si t'étais venu avant.
Je dirais...
Toujours pas, attention. 1.
Avant Armstrong.
2.
10 secondes, quand même.
Non, quand même pas. On va s'arrêter là. Vous l'avez pas.
Non, c'est je
un...
l'ai pas.
C'est un deuxième point pour...
Yannul Rich.
Pantani.
Marco Pantani.
Pierre Neuris.
Rizzo.
Je notais quand même qu'on a rigolé quand j'ai dit qu'on l'avait enlevé à Floyd Landis, mais Pantani, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de problème. Allez, on fait la dernière, juste la dernière. On va parler football, ça va être simple. Je veux, messieurs, pour terminer sur ce petit jeu, sur vos connaissances, les 15 derniers vainqueurs, tout simplement, de la Ligue 1 Conforama. Coraline, ouais. C'est parti.
Paris.
Le Paris Saint-Germain, 2018, c'est fini, 2016, c'est bon, 2014 et 2013. Timothée Rouvière.
Je dirais le LOSC de Johan Cabaye en 2011.
Bien évidemment, entraîné par Rudy Garcia. Ouais. Marek Keita.
L'année d'avant, c'était Montpellier, il me semble.
C'était pas l'année d'avant, c'était l'année d'après, en 2012, avec René Girard.
Grande époque Giroud.
Maxime Brossard.
Marseille.
Marseille, c'était l'année d'avant, avec Didier Deschamps, le sélectionneur national.
Allez, on continue 2010. À remonter. Bordeaux, 2009.
Bordeaux en 2009, et à partir de là, le vainqueur, celui qui le trouve, Coraline Vieux.
Il y a eu Lyon aussi pendant
cette année. Il y a eu l'Olympique, justement, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, et 2002. De Timothée Rouvière.
Je veux dire, il y a deux ans, l'AS Monaco qui va un petit peu mal en ce moment, mais l'AS Monaco qui a été champion de France en 2017.
Et en 2017 et en 2000, tout simplement.
Avec l'éclosion de Kylian Mbappé.
Et oui, exactement. 2017, c'était avec Jardim.
Il nous manque 2001, Marek. Tu l'as, 2001.
2001.
Attendez, 2001.
2001, on en a parlé tout à l'heure du vainqueur de championnat.
Oh, ça, c'est pas de l'indice, ça.
On en a parlé tout à l'heure. Je donne 3 secondes, parce que là, on en a vraiment.
On a parlé tellement de choses en même temps.
Et Lucas Cerdic est jaloux, donc c'est vraiment
pas. Non, c'est pas Saint-Etienne.
Attention,
quand même.
Non,
terminé. J'étais en national.
Je sais que c'était bien avant. Terminé.
Marama.
Ouais. Maxime Brossard. Et c'était le FC Nantes, bien évidemment, Nantes, en 2001. Ouais. Bordeaux, pardon, c'était également en 99.
Par contre, en 98, c'était Lens.
Et en 98. Ouais. Et en 98, c'est pour vous, Marek.
Lucas, merci.
Lucas, autant pour moi, je confonds, il y a trop de monde. Coraline.
Saint-Etienne, non, ils y sont pas.
Ils y sont.
Ça remonte trop.
Ils y sont pas. Messieurs, c'est simple. On a cité tout le monde. Marseille, Monaco. Monaco en 88, Marseille entre 89
et 96. 96.
Il nous faut. Le...
Ils font le doublé Coupe de France.
Auxerre, je dis. C'est bon, Auxerre. Merci, Maxime.
Timothée, on est une émission de sport. On va être fair play. On va donner la victoire
à Maxime.
Ah ouais, allez. Merci. Hein.
Donc pour l'apéro avec modération, ça va se partager entre Timothée, Marek et Coraline. On se retrouve à l'instant, tout de suite, pour l'agenda de la semaine.
Sportez-vous bien. L'agenda sportif.
Et l'agenda sportif est avec vous, Maxime Brossard.
Oui, c'est parti pour l'agenda. Prenez vos crayons. on commence par la Coupe d'Europe de rugby. Bon, il n'y aura pas de match à aller voir à Toulouse, mais on va parler du Stade Toulousain qui va se déplacer à Basse. Ce sera samedi à 14h. Tout près d'ici aussi, il y aura les Castrés qui vont se rendre à Gloucester. Là, ce sera le dimanche à 14h. Par contre, après, voilà, si vous êtes dans le coin, à Colomiers, Colomiers recevra Béziers vendredi 12 octobre à 20h. Alors là, je vais vous parler d'une opération lancée par Colomiers Rugby qui s'appelle l'opération Happy Rugby. Alors en fait, c'est une after work qu'on appelle. Donc c'est un apéritif qui va être organisé juste avant la rencontre. Si vous arrivez entre 17h30 et 18h30 au stade Michel Bendichois à Colomiers, la place vous sera offerte. Voilà, donc c'est une opération plutôt sympathique. En plus, vous pourrez boire un coup avec vos collègues et voir peut-être un beau match.
Mais c'est pas de la Coupe d'Europe là.
Ah non, là c'est pas la Coupe d'Europe, c'est la Pro D2 là.
Là c'est de la Pro D2.
Après on continue sur Montauban qui reçoit Bourg-en-Bresse. Ce sera le vendredi à 20h aussi.
Toujours en Pro D2.
Toujours en Pro D2. D'ailleurs toujours en Pro D2, on va dire enfin que pour ces deux clubs ça va être victoire impérative hein, puisqu'ils sont 13 et 14e du classement.
Ouais, donc,
ça
sont
va,
en bas.
S'ils gagnent pas ça, à c'est domicile, dingue. Ça va commencer à chauffer quoi. On enchaîne avec du volley.
Le volley
donc la Liga, c'est la reprise. Ah, c'est la première journée. Ouais. Les Spacers qui ont fait une saison un peu catastrophique l'année dernière, ils ont été sauvés alors qu'ils ont terminé dernier du championnat. Ils reçoivent les Nordistes de Tourcoing. Ce sera à 20h.
Gros match déjà.
Des sports. Ouais, ouais.
Belle
première journée.
Ils démarrent très très fort. Hein.
Ouais, ils démarrent très fort.
Au moins, ils sont dans le rythme tout de suite.
C'est parce qu'ils feront mieux que nos handballeurs.
Oui, oui, ça c'est sûr. Ouais, pour le début de saison. Et ça, après, il y aura, par rapport au volet, il y a une information qui peut être intéressante. C'est que même s'ils refont une saison catastrophique, ils sont sûrs d'être sauvés cette année, puisqu'en fait, le Paris volet a été relégué. Du fait, la Ligue en fait, passe à 13 équipes, alors qu'elle devait être à 14. Mmh. Et donc, comme la dernière place était relégable, et en fait, même si on est 13e, on ne sera pas relégué.
Encore une saison pour rien, quoi.
Voilà, une saison pour rien, exactement. Enfin, il y aura un champion, oui, oui. Peut-être.
Toulouse, qui a été vice-champion de France
il y a deux ans. Ils ont perdu tout leur monde, leur coach,
leur meilleur joueur. L'effectif aussi, ouais, était un peu dégraissé. Ouais. On continue avec le handball. Le Phoenix qui va se
qui
déplacer à Paris. Le Phoenix qui va mal, oui. Ils sont affrontés en plus les 3e du classement. Ils sont 12e.
Ça va pas aller mieux en allant à Paris.
Ah non, je pense pas, non.
Pas trop, non. En fait, ce sera ce mercredi à 20h30. Donc, bon, voilà, on espère que le Phoenix va peut-être accrocher un résultat.
C'est un match bonus,
Paris,
hein.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment le match bonus. On sait jamais.
Enfin,
on va continuer juste sur hockey sur glace. Je vais parler du TBHC. On en avait reçu Eddy Martin, l'entraîneur, la semaine dernière. Ils ont fait un début de saison canon avec 2 victoires. Ils sont en 2e division, on le rappelle. Ils vont tenter la passe de 3 en recevant Courchevel-Méribel à la patinoire Jacques Reynaud de Blagnac. Ce sera ce samedi à 19h30. Je finis rapidement sur la Fédérale 1. Ce sera la 6e journée de Fédéral 1 avec des beaux matchs à prévoir, avec cette poule 2 qui fleure dans le rugby d'antan. Eh oui, un beau Tarbes, Nafarroi, samedi 13 à 18h. Il y aura aussi Albi, si vous êtes du côté d'Albi, vous pourrez voir Bagnères de Bigorre qui viendra le samedi à 19h. Enfin, il y aura Lavore, le champion en titre, qui va recevoir Oloron le dimanche à 15h.
Ouais, c'est beau, tout
bel
ça.
Horaire,
et Blagnac, la poule 3, parle-nous de la poule 3.
La poule 3, on y va. Blagnac, ils sont exempts. Ils vont faire l'apéro ce week-end, comme nous, après l'émission. Castanet-Aubenas, dimanche à 15h. Et si vous êtes frontalier de la vous pouvez aller voir à Saint-Sulpice-sur-Lèze contre Groyer à la même heure.
Merci Maxime Brossard, on se retrouve tout de suite pour le dernier débat de la soirée.
Sportez-vous bien. Le débat.
Il va falloir se mettre au sport, il va falloir courir messieurs. La saison dernière, ils ont terminé avec seulement 38 points, se sauvant à la au mois d'avril. Lille a vécu une saison très difficile avec son nouveau propriétaire. L'arrivée de Galtier et surtout de joueurs expérimentés permet au LOSC de faire un début de saison et un début de championnat de très haut niveau. Messieurs, la question elle est très simple et comme d'habitude, on répond par oui ou par non. On va commencer avec vous Timothée Rouvière. A-t-on retrouvé le grand LOSC?
Non.
Marek Keta?
Non, pas encore.
Maxime Brossard?
C'est trop tôt.
Et Lucas Serdic?
Oui.
Oui. Oh. Pourquoi? C'est le seul oui du débat. Pourquoi on a retrouvé le grand LOSC, qu'on le rappelle, dernier titre, le doublé Coupe Championnat en 2011 avec la Ligue 1 et la Coupe de France?
Ben parce qu'ils ont les fondamentaux, c'est-à-dire de très bons résultats à domicile. Ça passe par là, en général, quand même une grosse saison. Déjà, quand on est serein à domicile, ça part bien. Il y a un trio devant qui est vraiment très très intéressant et on l'a vu encore ce week-end, Bamba, Pépé notamment. Hein. Il y a Iconé aussi qui tire son épingle du jeu, mais ce duo-là, Bamba, Pépé, est vraiment très impressionnant. Si je dis pas de bêtises, c'est 13 des 17 ouais. buts de Lille, quelque chose comme ça. Voilà.
Deux, ouais.
Donc c'est assez énorme. Et il y a un coach. Et il y a une équipe, enfin, je sais pas, je sens un 11 en tout cas très, très concerné. S'ils sont épargné par les blessures, il y a vraiment moyen qu'il se passe quelque chose de sympa pour le LOSC cette saison.
Timothée Rouvière, vous avez dit qu'on n'a pas retrouvé le grand LOSC. Alors pourtant, d'accord, il y a le Paris Saint-Germain qui survole la Ligue 1 Conforama. Mais pourtant, ça bat Marseille, ça bat Saint-Etienne. Saint-Etienne, on en avait parlé la semaine dernière. Marseille, on en avait parlé il y a deux semaines. Il gagne à domicile. C'est la meilleure équipe à domicile avec le Paris Saint-Germain cette saison. C'est la deuxième meilleure défense à un but du Paris Saint-Germain, encore une fois. Lille est présent, Lille est grand là en ce début de championnat.
Lille est présent, Lille est grand en ce début de championnat, mais moi je pense qu'il est un peu trop tôt. On est à la 9e journée de Ligue 1, il y en a 38, et il est un petit peu trop tôt pour tirer des conclusions. On a vu que Saint-Etienne marchait fort, on en a parlé la dernière fois. On s'était un petit peu enflammé, on a vu que ça marchait pas forcément. Moi je pense que Paris est tout là-haut, donc oui. Je pense pas qu'ils feront une Leicester, ça c'est sûr. Et il est trop tôt tout simplement pour tirer des conclusions, même s'il y a une belle équipe.
Marek est
Timothée a raison, on parlait de les comparer à Leicester, c'est trop tôt, puisque vous disiez, Maxime, qu'ils ont les fondamentaux, je ne suis pas d'accord. Certes, ils ont un trio offensif qui est très très impressionnant, qui va très vite, mais au milieu de terrain, Leicester, eux, ils avaient quand même un monstre qui s'appelle N'Golo Kanté. Eux, ils ont Loïc Perrin qui n'a pas fait une super performance ce week-end. Donc voilà, et puis surtout, Lille, pour l'instant, c'est une équipe qui remet ses ambitions un peu... ses ambitions sont revues à la hausse. Leur objectif, on le rappelle, c'est d'être dans les 10 premiers.
Ouais, voilà, c'est ça.
Alors, ils peuvent commencer à rêver d'Europe, d'accord, mais de là avoir retrouvé le grand LOSC, je ne suis pas d'accord.
Non, mais quand je dis le grand LOSC, c'est au moins un LOSC qui peut faire une saison comparable à celle de Nice il y a deux ans. Voilà, je vois une grosse saison, une troisième ou une quatrième place en fonction
Justement, le dernier podium, c'était en 2014. Est-ce que le podium. Donc, qui veut dire Ligue des Champions.
Ouais, mais c'était René Girard, ça compte pas.
Ça va être compliqué.
C'est possible pour le LOSC de faire podium.
Ouais, c'est possible. Ouais. Oui, c'est vraiment possible parce que en plus de ça, on a des équipes qui piochent un petit peu, des favoris qui piochent un peu en début de saison là, comme ça. Alors que le LOSC marche bien, ils n'auront pas de Coupe d'Europe à jouer. Oui, c'est possible. Pour moi, c'est possible en tout cas.
Messieurs, c'est déjà terminé hein, pour cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Coraline à la réalisation. Retrouvez dès 7h Rémi Souloumiac, Isabelle Honneil et Corinne Saint-Félix. À 9h, Vivante Église avec Emmanuel Pella. Nous, on se retrouve lundi. Bonne semaine avec Radio Présence.
Au revoir.
De passage à Lourdes.
Chaque semaine dans l'émission De passage à Lourdes, je rencontre une femme ou un homme que la foi a conduit au sanctuaire de Lourdes. De tous les coins de France, de tous les états de vie, au terme d'itinéraires parfois incroyables. De tous les coins de France, de tous les états de vie, au terme d'itinéraires parfois incroyables.